Alors, deuxième partie, Corinne.
Oui, c'est à moi. Eh bien, on va un petit peu dérocher nos habitudes. Puisque souvent, on vous parle de romans, comme on dit, très noirs, qui donnent une vision plutôt pessimiste. En fait, objective, mais pessimiste, voire désespérée de la société, mais toujours objective, n'est-ce pas? Et là, je vais vous parler de deux polars qui vous feront très souvent sourire et, pour tout vous dire, qui vont vous donner la pêche. De romans toniques, vitaminés, aux personnages attachants. Tous les deux sont écrits par des femmes. Et même des femmes, toutes les deux prénommées Sophie. Le premier s'appelle « Art et décès ». C'est un roman écrit par Sophie Hennaff. Il vient de paraître chez Albin Michel. Le second s'appelle « Le blues du chat ». Son auteur en est Sophie Chabanel et c'est dans la collection Cadre Noir aux éditions du Seuil. Autre similitude d'ailleurs, ce sont des, comme on dit, séries avec des personnages récurrents. Art et décès est le troisième après Poulet grillé et Rester groupé, les deux premiers titres de Sophie Hennaff. Le blues du chat est le deuxième opus après le premier qui s'appelait La griffe du chat, toujours au Seuil, où l'on va retrouver Rourou ou Ruru, je sais pas, le chat. Je connais pas la prononciation dans chez les chats, moi. Donc Rourou le chat
et Rourou.
Oui, non, ça le fait pas là. Puis ça lui va pas du tout à celui-là. Et puis il y a le commissaire Romano. Tiens, Romano, gros matou, ça sonne pareil. Voilà, une petite similitude. Avant de vous parler un petit peu de chacun de ces deux romans, une précision, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir lu les précédents pour comprendre ces nouvelles histoires. Mais comme chacun d'entre eux, chacun des précédents est sorti en poche, autant faire une belle moisson. Je vais donc vous parler du blues du chat. On retrouve le commissaire, la commissaire Romano, et son second, Tellier, qui sont appelés au début du roman sur une scène de crime étrange. Un notable, qui va se voir décerner la Légion d'honneur, a succombé à une crise d'allergie. C'est pas très criminel tout ça. Sauf qu'on a remplacé l'adrénaline salvateur par de l'eau dans les seringues. Et sauf que le défunt, qui s'appelait François-Xavier Tourtier, était allergique aux crevettes. Le problème, c'est que dans le buffet qui était prévu pour la Légion d'honneur, il n'y avait pas de toast aux crevettes. Évidemment, puisque les crevettes étaient détestées par cet homme qui était avant un trader, reconverti dans le développement durable. Et donc, le criminel a cru bon, pas crime parfait, mais a aspergé délicatement tous les toasts de la réception de jus de crevettes. Pour être sûr qu'il en mange au moins un, et donc qu'il puisse défunter, succomber.
Relativement astucieux.
Ouais, c'est pas mal. Les suspects ne manquent pas, à commencer par la jeune veuve Ariane. Mais ça pourrait être tout aussi bien son conseiller spirituel, un curé pas très catholique, ou bien le grand-père d'Ariane. Il ne portait pas le golden boy, dans son cœur, et même s'il semble presque à l'agonie, le grand-père, hein, parce que l'autre il est mort, hein, il pourrait bien être le meurtrier, le vieux schnock qui tient bien quand même. Hein. L'enquête démarre. Et nous nous délectons déjà à suivre Romano, tour à tour, pétulante, pétaradante, courant de place en place, sautant dans un avion pour retrouver son amant au Portugal, chevauchant les vélos d'appartement qu'elle a fait installer au commissariat pour mieux réfléchir.
Et faire un peu d'exercice, ça c'est...
Oui, parce qu'ils ont tendance à s'empâter les flics dans son commissariat. Mais on la retrouve aussi finaux des plaines de Rory quand il s'agit de s'entendre et surtout de s'arranger avec la hiérarchie, en fait de bien se fiche d'eux et de bien gagner contre eux. N'oublions pas son côté maternel, il faut le chercher loin celui-là. Mais finalement, il y a Ruru, le chat qu'elle a adopté, elle l'aime bien. Bon, Ruru, il fait une déprime. Ça, soigner la dépression d'un chat, c'est quand même pas de la tarte. Mais il n'y a pas de problème, parce que Romano peut compter sur ses deux adjoints, donc Tellier, et puis il y a aussi Clément, pas très fufu de Clément, mais pour trouver des remèdes à la dépression du chat, il est capable de trouver toutes les thérapies possibles. Impossible de résumer complètement ce roman, tant il déborde d'idées, d'objets hétéroclites, d'êtres humains bizarres, mais totalement normaux. De personnes normales, mais totalement déjantées. Et le style est à l'avenant. une plume nerveuse, vive, incisive. Les dialogues fusent, les situations s'enchaînent avec brio, parfois vaudevillesque, des entrées, des sorties. Bref, c'est très très bien mené et on se régale tant du fond que de la forme. Pas mal pour une comédie à la française, pas mal du tout. Alors pour vous donner une petite idée du ton et du style, un petit extrait. Alors je vous le situe, l'extrait, c'est au tout début, quand les deux flics commencent à interviewer les témoins pour essayer de comprendre. Les cinq témoins suivants, amis et connaissances du décoré, confirmaient largement cette version. Tous avaient vu François-Xavier Tourtier gonfler comme une outre. L'expression consacrée, on gonfle comme une outre ou on ne gonfle pas. Tous avaient également entendu les derniers mots du disparu et ceux de sa femme. L'un des témoins, content de sa comparaison, précisa deux fois que le décoré avait croassé comme un corbeau. Seules les couleurs divergeaient. Certains l'avaient vu devenir rouge comme une tomate ou un coquelicot. D'autres assuraient qu'il était devenu blanc comme un neige. Bel exemple de la fiabilité des témoignages. Romano fit une note mentale de le citer à ses élèves de l'école de police. Voilà, petit extrait. Je vous avais promis non pas un roman comique, mais deux.
On change de Sophie.
Sophie Hénaff, autre personnage de commissaire féminin. Anne Capestan. Petit retour en arrière. Dans Poulet grillé, le premier de la série, on avait une nouvelle brigade qui était créée. En fait, histoire de placardiser un certain nombre de flics trop bizarres pour rester dans des commissariats, on va dire, normaux. Si tant est qu'un commissariat... Ben enfin bon, ça c'est... Si on reprend donc le canal historique, on a au départ la commissaire Anne Capestan. Elle, un peu placardisée parce qu'elle défouraille un peu trop et un peu trop vite. Dans le premier, elle va se retrouver assistée d'un alcoolo, d'un homo, ils n'aiment pas ça dans les commissariats, les homosexuels, hein, d'un porte-poisse et d'un écrivain. Enfin, une écrivain, une auteure. Flic, devenu auteure à succès, en racontant les travers de ses camarades, qui n'ont pas du tout apprécié. Et hop, placardisé la Eva Rosière. Depuis, d'autres poulets complètement grillés dans les commissariats ont rejoint la brigade. Au début d'arrêt d'essai, ah, j'ai peut-être oublié de dire que arrêt d'essai, d'essai, ça s'écrivait D-E-C-E-S, hein.
Jeu de mots. Les accents qu'il faut.
Voilà, bien sûr. Accent aigu, accent grave. Au début donc de cet opus, deux événements bouleversent la brigade. Premier événement, Anne Capestan accouche d'un fils. Pour la petite histoire, le père est en prison. Rien ne se passe normalement dans cette brigade. Et elle est donc en congé maternité. Et elle n'a pas du tout envie de reprendre le travail. Eva Rosière, quant à elle, devient scénariste d'un film tiré d'un de ses best-sellers. Problème, le réalisateur, Michel Aramédian, est assassiné. Et Eva Rosière fait une suspecte toute trouvée. Eva Capestan doit évidemment interrompre son congé, mais hors de question de laisser le bambin dans une crèche ou aux mains d'une nounou, il va la suivre partout. À partir de ces deux contraintes peu banales, d'abord un flic affublé, d'un bébé vagissant, enfin le bébé n'est déjà plus trop bébé, mais bon, il vagit quand même, hein. Et puis il y a une escouade de flics qui débarque sans cesse sur un plateau de tournage. Donc à partir de ces deux contraintes, Sophie Hénaff s'amuse et nous amuse. Comme d'habitude, les travers de chacun des policiers vont servir et desservir tour à tour les investigations. Et les réunions dans l'appartement qui est transformé en QG, d'ailleurs à moins que ce ne soit l'inverse, c'est un QG transformé en appartement, on ne sait pas trop. Ces réunions, ce sont des moments truculents et totalement improbables. Alors je vais spoiler un peu. À la fin de cet épisode, on a quand même des fêlures qui apparaissent dans l'équipe. On a une espèce de cliffhanger qui sait peut-être, on l'espère d'ailleurs, pour le quatrième épisode de la Brigade Infernale. Donc je rappelle le titre, Art et Décès, en un seul mot. C'est chez Albin Michel et l'auteur en est Sophie Hénaff. Juste avant de vous lire un petit extrait, là encore, pour vous donner une idée du ton. Alors, Anne Capestan et un de ses adjoints, un colosse qui s'appelle Diamant, l'homme Everest, ils partent à Deauville et on est en pleine saison. Il était 10h du matin, ils étaient passés par la boulangerie de la place du Morny pour s'acheter des croissants. Devant eux, une vieille dame à chignon, soignée, s'était étranglée d'indignation en découvrant la pénurie de viennoiseries. Plus de brioche à tête, mais il est 10h. La mamie avait finalement opté pour un croissant qu'elle avait réglé en retournant chaque piécette, vérifiant le montant de ses yeux fatigués et bougonnant « Vivement septembre, hein, qu'on puisse reprendre une vie normale !» C'est-à-dire une vie avec des brioches à tête. Bah oui, en saison, les touristes, ils achètent toutes les brioches à tête. Voilà, donc deux romans pour fin de week-end triste, pour début de soirée pluvieuse. Voilà, Sophie Hénaff et Sophie Chabanel. Un petit peu de musique.
Voilà, il était question beaucoup de chats dans le premier roman dont tu as parlé. Donc, ben, on va parler de chats aussi dans ta musique, avec un blues, un très vieux blues.
Ben oui, le blues du chat.
Le blues du chat, voilà. Un très vieux blues de Lightning Hopkins, qui s'appelle Black Cat Blues, le blues du chat.
Black cat told the white cat, stay where you can be. He said, I believe you're trying to cheat, poor me. And he kept on going across town. Go out over there where they can drink some of that old Morgan Davis wine. Just go ahead on and drink that Marvin Davis wine.
Et voilà, donc on quitte la guitare de Lightning Hopkins pour revenir dans les Appalaches, ou les Appalachies. En fait, ça fait près de 20 ans que Chris Offutt n'avait pas écrit de roman. Certes, les éditions Gallmeister ont récemment, enfin l'an dernier, réédité son premier roman, Le Bon Frère, ainsi qu'un recueil de nouvelles, dont on avait parlé dans cette même émission en juin dernier. Et donc, les éditions Gallmeister publient en mars, donc il y a quelque temps, ce nouvel opus, qui s'appelle Dark Country en VO, et qui s'appelle Les Nuits Appalachies, ou Appalaches, en français. La traduction est assurée par Anatole Ponce. Alors, on se disait, ouais, 20 ans qu'il n'a pas écrit, est-ce qu'il n'a pas un peu perdu la main? Eh bien, pas du tout. C'est une pure merveille. Le roman commence par le retour d'un vétéran. Encore un vétéran, mais ce coup-ci, c'est la guerre de Corée, on est en 54. Vétéran peut-être, mais en fait, Tucker, le personnage principal, n'a en fait que 18 ans. Vétéran, ça n'a pas le même sens pour les Américains que pour nous. Il rentre tranquillement chez lui, par la route, sans vraiment se presser. Personne ne l'attend dans le Kentucky. Il rentre juste chez lui, avec son sac, son couteau et son paquet de Lucky, à pied, ou quelques petites étapes en stop. Tout commence presque comme une bluette. Il dort dans la forêt, se nourrit de sa pêche, de sa chasse. Il avance tranquillement en écoutant les oiseaux ou en se régalant d'un écureuil. Et puis, il croise Rhonda, 15 ans à peine, qu'il extirpe le jour de l'enterrement de son père, le père de Rhonda, des bras de son oncle, l'oncle d'Honda, qui l'a frotté sans faire exprès, comme selon l'expression employée par cette même Rhonda. Rhonda et ses jambes brunes et satinées. Rhonda dont les sourcils semblent broder sur son visage, nous dit Chrysophute. Rhonda, ses pommettes étaient aussi saillantes que les galets sur la route. Ou sa robe en coton était suffisamment fine pour laisser entrevoir la structure complexe de sa clavicule et le petit creux de son épaule entouré d'os et de cartilage. C'était l'endroit idéal pour un trèfle à quatre feuilles.
Que c'est joli.
Très joli. Rhonda, eh bien, Tucker ne la quittera plus, ou presque. Un peu plus loin dans le roman, 10 ans après, ils ont déjà 5 enfants. L'aîné, Joe, se porte bien. Les autres ne sont pas normaux. Ils souffrent de diverses malformations. Les services sociaux de l'État, du comté, vont se mêler de leur vie tranquille, pauvre mais pas miséreuse. Tucker travaille, lui, comme convoyeur pour un bootlegger du coin. On est dans le Kentucky, je vous rappelle. Donc faire de l'alcool, c'est presque une seconde nature pour certains. Et Tucker va tout faire pour protéger sa famille de ses services sociaux et de plein d'autres choses. Même des choses que la morale, une certaine morale en tout cas, réprouve. Je le disais tout à l'heure, c'est un très beau roman. Chrysophute a toujours et toujours aussi fort, précis, subtil pour décrire ses personnages, pour les faire vivre, pour raconter les rapports humains, les conflits, les bons moments, la violence et la tendresse aussi. Et aussi pour rendre la beauté et la rudesse de la nature de ce Kentucky sauvage et aride malgré les forêts et les rivières. Le traducteur, comme tu disais déjà tout à l'heure, a dû bosser pas mal pour trouver tous ces noms d'oiseaux, d'animaux, de végétaux, dont beaucoup n'existent même pas forcément dans nos contrées. Le style de Chrysophute est toujours aussi impeccable. Cela paraît simple, car il n'y a pas d'affect dans son écriture, ni de grandiloquence, et pourtant c'est millimétré. Tout est contenu dans un mélange de lyrisme et de rigueur. Et même s'il pousse son récit dans une certaine noirceur, voire une noirceur certaine, il garde une lumière très personnelle qui éclaire ses personnages. Et même dans les pires moments, l'auteur les maintient hors du désespoir. Un peu comme on a juste la tête en dehors de l'eau certaines fois. On vit avec eux, un peu chez eux, mais sans le moindre voyeurisme. Le lecteur fait partie de la famille, un peu comme le chien qui rentre dans la maison quand il veut. Il ne reste plus qu'à espérer que Chrysophute ne mette pas 20 ans
pour
écrire le prochain, mais certaines indiscrétions me permettent de dire d'ores et déjà que non.
Il y a peut-être aussi un écrit en réserve.
Il semblerait qu'un prochain roman soit déjà en route, même s'il n'est pas complètement fini. Donc je rappelle Les Nuits Appalaches de Chrysophute, publié aux éditions Gallmeister et traduit par Anatole Ponce.
D'ailleurs, c'est de là Ron Rash et Chrysophute, Ron Rash et dont j'ai dit qu'il les histoires se passaient dans les Appalachies, se sont rencontrés à Quai du Polar il n'y a pas si longtemps que ça, pour parler certainement des sombres histoires des Appalachies. Je ne sais toujours pas comment on dit ce coin du monde d'ailleurs.
En français on doit dire Appalache, mais c'est vrai que c'est un peu moins joli.
Ouais. On a fini notre émission. On va vous dire donc chacun dans son coin avec un bon bouquin
ou plusieurs.
À bientôt.
Au revoir.